Gemma Bovary, de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique, Lily Stein.
8e épisode.
La fin d'une liaison.
Pour la première fois, j'ai l'impression de vivre la vie que je mérite. De vivre comme je l'ai toujours souhaité. Mes rendez-vous secrets avec Hervé de Bressigny au château de la Boissière me comblent et me transportent. Je baigne dans la félicité, le délire des sens et le champagne. C'est comme un rêve, un tableau parfait que rien ne pourrait abîmer. Je dépense beaucoup trop, mais le bonheur n'a pas de prix, n'est-ce pas?
En janvier, les visites de Gemma au château ont commencé à durer plus longtemps. Son journal indique qu'après, il bavardait au coin du feu. Elle savait que c'était imprudent. Entre eux, l'intimité devait demeurer purement physique. N'importe quoi d'autre mènerait, je cite, à des promesses et des complications. De plus, elle jugeait que le sexe avec un inconnu était une excitation suffisante. Gemma et Hervé ont commencé à se demander des trucs idiots. Par exemple, les 4 meilleures choses de France et d'Angleterre. N'ont-ils pas vu que l'échange de futilité est le début de l'intimité?
Alors, pour le France, moi j'ai mis le vin, la cuisine, le paysage, le climat. Toi, tu as mis la culture, le paysage, le vin, la cuisine. Pour l'Angleterre, moi j'ai les langues anglaises, les jardins, les pop music, le taxi de Londres. Toi, tu as Burberry, le whisky écossais. Non, mais c'est tout. Dis donc, t'aimes pas beaucoup l'Angleterre, toi, hein?
Non, je préfère les Anglaises.
Ah, ah, ah. Hé, hey, mais il pleut. C'est fou que la pluie arrive à traverser 3 étages. Des étages au plafond. C'est comme des continents dessinés par des années de fuite d'eau. Dis-moi, ça coûterait combien de réparer le toit, à ton avis?
Des millions.
Que ta famille ne possède pas, c'est ça? Il vient d'où l'argent de ta famille? Enfin, l'origine, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est si moche que ça? Et avec, écoute, c'est très courant. En Angleterre, c'est souvent un truc dégoûtant, comme l'esclavage.
Non, pas l'esclavage. C'était la quincaillerie, en gros, le siècle dernier.
Quincaillerie? Quincaillerie? Ah oui, ironmongery. J'ai pas de mal à ça. C'était plus ou moins les nouveaux riches, alors. Et ils ont acheté le titre. C'est étonnant, j'ai toujours cru que la révolution avait mis fin à tout ça. Mais en fait, ça a continué au 19e siècle, alors. Hervé, tu m'écoutes? Tu m'écoutes pas du tout, là.
Non. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu couches avec ton mari en ce moment?
Si je couche avec Charlie, tu veux vraiment savoir ça? Come on.
Ça me plaît pas que tu couches avec ton mari.
Mais toi, tu le fais avec Miss... Je sais pas quoi, là, non? Pas vrai?
Je déteste que tu fasses ça.
Arrêtez, je veux pas parler de ça, s'il te plaît. Hervé, dégageons.
Non, dis-moi, pourquoi tu restes avec lui si tu l'aimes pas? C'est dégoûtant, pourquoi tu le quittes pas?
Mais ça te regarde pas. Peut-être on se séparera, je rentrerai peut-être en Angleterre ou pas.
Mais tu me quitteras aussi.
Mais ça se passera pas comme ça, Hervé, ce sera pas te quitter. Écoute, ces choses-là ne durent pas, tu le sais, c'est pour ça que c'est si bon. Hey, dans 1 ou 2 mois, tu sauras que j'ai raison. Ce sera moins excitant, tu verras. Je suis réaliste.
Je déteste la façon dont tu parles. T'es si froide, tu n'éprouves rien, rien. Je suis rien pour toi.
Hervé, j'ai vraiment été très heureuse avec toi.
Heureuse? Merde. Écoute, Gemma, je t'aime. Gemma, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Gemma.
Embrasse-moi. Come here. See you tomorrow, okay? Okay?
À demain.
Ce Cet après-midi-là, je suivais mon circuit habituel autour du château. Tout ce que j'avais entendu, c'est Hervé crier qu'il l'aimait. Un petit chapelet de mots qui a tranché mon cœur comme un fil à couper le beurre.
Il m'aime.
Je me rappelle m'être senti vraiment mal. Voyez-vous, j'avais déjà trouvé leur désir assez pénible, et le désir n'accaparait Gemma que physiquement. Mais l'amour, je ne pouvais pas supporter qu'il s'aime, qu'elle l'aime. Pourtant, 5 minutes auparavant, j'avais vu l'amour transformer Gemma et Hervé, les transmuer de petits fornicateurs froids qu'ils étaient en deux amoureux intemporels. Gemma est rentrée chez elle où, d'après son journal, elle n'a pu ni travailler ni manger.
Sweetie, je te fais mon petit carrot cake.
C'est cette salope de Judy! Forcément! Elle m'a dénoncé. Dénoncé au putain de fisc! Elle m'a foutu dans un sacré merdier. Oh, ils veulent voir mes comptes de l'année dernière. Ah, ils vont forcément remonter plus loin.
Mais qu'est-ce que c'est, Charlie?
Une lettre du fisc anglais qui réclame ma présence à Londres. Oh mon Dieu, ils vont me faire la peau. Je suis cuit. Salope de Judy! Comment a-t-elle pu? Elle me menaçait sans arrêt. Je croyais qu'elle plaisantait. Comment a-t-elle pu me faire ça?
Oh, tu verras, ça va s'arranger.
Ce soir-là, Gemma n'a pas pu dormir. Jamais auparavant, elle n'avait rencontré la vraie puissance de l'amour avec un grand A. Elle se sentait en feu. Elle brûlait. Près d'elle, Charlie avait des sueurs froides confrontées à ses propres préoccupations. Quant à moi, je ne dormais pas non plus. La sensation à laquelle je m'étais habitué, celle d'un minuscule rongeur vivant dans mon diaphragme, était devenue insupportable. À présent, une chose géante, un castor, un ragondin sûrement me dévorait. C'est seulement cette nuit-là que j'ai pu mettre un nom sur la sensation. Jalousie. Jalousie amoureuse. J'ai dû l'admettre, j'aimais Gemma Bovary. Je haïssais sa liaison avec Hervé de Bressigny. Alors j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer. Cette histoire devait se terminer. J'allais la détruire.
Tu veux une baguette, s'il vous plaît?
Une baguette? Quitte-le, Gemma, quitte-le. Laisse-le tomber, ce petit con. Quitte-le, quitte-le.
J'ai obtenu l'effet inverse.
Merci.
Hervé venait de Paris presque chaque semaine.
Au revoir.
Gemma et lui s'enhardissaient. Ils ont commencé à se montrer en public. Dans son journal, Gemma dit vouloir connaître ce jeune homme qui affirmait l'aimer. Alors elle l'emmène déjeuner à Dieppe, Trouville, Honfleur, n'importe où pourvu que ce soit assez loin de Bailleville pour apaiser ses craintes d'être vue avec elle. Gemma, elle, semble n'avoir aucune crainte concernant Charlie. Elle se contente de lui dire qu'elle sort, il lève le nez de son travail mais ne pose jamais de questions. Elle décrit le caractère excitant de ses déjeuners avec Hervé. C'était la première fois qu'ils étaient ensemble et gardaient leurs vêtements plus de 5 minutes. Ils en devenaient timides, comme s'ils venaient de se rencontrer. Le journal indique que depuis la déclaration d'amour d'Hervé, leurs rencontres ont pris un tour violent et passionné. C'est ainsi qu'un petit Sèvre de Psyché et Cupidon, l'une des rares pièces de valeur restantes au château, a été renversée et s'est brisée.
Merde, le pied est cassé.
Oh non.
Ah, si ma mère voit ça, elle va me tuer. My mother will kill me.
Hervé, c'est pas si grave. Mon mari peut le réparer et restaure toutes sortes de choses, tu sais. Et t'en fais pas, j'y serai très discrète. Je trouve un moyen de lui demander sans lui parler de toi. Confie-moi le Cupidon et...
Bon, prends-le, mais rapporte-le vite, sinon je suis mort.
C'est seulement maintenant, en lisant son journal, que je mesure à quel point la déclaration d'Hervé l'avait affecté. D'abord, en la poussant à dépenser de l'argent pour lui. Les restaurants, un pull en cachemire, le week-end crapuleux qu'elle prévoyait de passer à Londres pour Pâques. Ensuite, en l'étourdissant, en l'excitant, elle en négligeait son travail, oubliait de rappeler les gens et d'ouvrir son courrier. Bref, ça la rendait un peu dingue. Enfin, en la faisant rêver. Des pages et des pages de chimères élaborées, un édifice en expansion contenant les éléments suivants. Je résume. Grand A, l'affaire que Gemma va monter en France. Elle adore la France, c'est la seule existence possible. Grand B, à l'arrière-plan, Charlie, parfois divorcé d'elle, parfois non, un agréable compagnon et associé. Grand C, dans son lit, Hervé. Gemma n'est pas folle au point de s'imaginer l'épousant. Elle sait très bien qu'il choisira quelqu'un de son milieu. Mais son mariage n'altère pas leur relation. Elle sait que les Français sont hautement civilisés sur la question des amants. Tout le monde en a. Elle reçoit Hervé, telle une maîtresse du 18e, dans un petit pavillon parfait pour donner des fêtes et héberger des invités. Grandet, Madame de Bressigny, la mère, une femme que Gemma n'a jamais rencontrée, mais qui, dès qu'elle la connaît, la charge de redécorer le salon de la Boissière, 3 tons de gris sur du blanc, et la salle à manger, la caissant de bœuf. Grand E, les clients, des amis et connaissances de Madame de Bressigny, dont l'enthousiasme pour le travail de Gemma propage son nom dans les beaux quartiers de Paris. Grand F, l'enfant de l'amour de Gemma et Hervé.
J'ai pas eu envie de me remarier après mon divorce, mais j'ai souvent pensé avoir un enfant. Seulement un. Je l'élèverai seule, bien entendu. Et pour notre week-end de Pâques? Dis oui. Tu trouveras bien une excuse. J'ai réservé l'hôtel, t'es obligée de venir. En plus, c'est facile avec le hostage. Je viens d'aller te chercher à Waterloo. 3 petits jours avec...
Je sais pas, je vais voir.
Et t'as réfléchi pour ta mère? Tu veux pas me la présenter? Je suis sûre qu'elle aimerait refaire les boiseries. Moi, je peux tout imiter, tu sais. Faux marbre, écailles de tortue, porphyre.
Bon, j'ai vu une super belle robe dans un magasin. Du coup, tu vas m'aider, je sais pas trop laquelle choisir. Il y a plusieurs couleurs, genre je l'ai vue en bleu ou en rouge. On l'a fait en vert pâle aussi, elle est pas mal. Du coup, je prends laquelle à ton avis, Hervé? Tu m'écoutes pas, Hervé?
Hervé?
Oui, quoi? Pardon, Delphine, tu disais?
Qui c'est? Il y a une autre femme dans ta vie, Hervé, je le sens. Je le sais depuis des semaines. Tu fais des choses différentes au lit, tu ne me parles plus jamais. Mais dis-moi qui c'est. Dis-le-moi.
Le week-end crapuleux ourdi par Gemma approchait. 3 nuits dans un hôtel de Londres. Hervé y rejoindrait Gemma qui partait en voiture via Calais et Douvres. L'excuse officielle fournie par Gemma à Charlie était un rendez-vous chez Octagon Press pour des illustrations. Je tiens ces détails de son journal. À l'époque, je savais juste qu'elle allait à Londres. Qu'Hervé l'accompagna n'était qu'un sombre pressentiment au creux de mes entrailles. J'étais à la pharmacie où travaille ma cousine Jeanne. Mon rhume naissant s'est transformé en fièvre à la vue de Gemma. Elle avait cet effet sur moi.
Voilà, Raymond. Aspirine, broncoclar, balsophumine, biquinol. Tu veux autre chose?
Non, c'est bon. Merci, Jeanne. Bonjour, Madame Bovary.
Bonjour.
Soigne-toi bien, Raymond.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé en format voyage, Madame Bovary. Je vois que vous préparez un départ en vacances.
Ah, non, juste un week-end à Londres, pour mon travail.
J'ai pensé dans une sorte de brouillard, elle part avec Hervé. Je suis rentré et en tournant dans l'allée, j'ai vu Charlie Bovary sortir de chez moi. Pauvre Charlie, il paraissait tellement déprimé. Savait-il pour Gemma?
L'électricité, le gaz... Ah, te voilà. T'as dû croiser Charlie Bovary, non?
Ouais.
Figure-toi, je sais pas si ça t'intéresse, mais il est passé demander un coup de main pour des factures. Elles sont en français, il comprenait pas. Des factures impayées, téléphone, électricité. Sa femme s'en occupe normalement, mais là, elle a oublié. Alors, j'ai dit qu'il devait se dépêcher, sinon ils vont tout couper.
Ouais.
Mais ça va?
Ouais, ça va. Je crois que je vais aller m'occuper des pommiers.
Mais je croyais que t'avais la grippe. Et décidément, Raymond, je sais pas ce qui t'arrive, mais t'es complètement dingue ces temps-ci, hein. Raymond?
Gemma
Bovary. J'ai hurlé en silence face au pommier. Gemma. Gemma Bovary.
Gemma !
J'aimerais pouvoir Gemma ! Dire que ce que j'ai décidé alors, briser à tout jamais la romance de Gemma et Hervé, je l'ai fait par solidarité masculine envers Charlie, mais ça n'avait rien à voir. S'il avait paru bouleversé cet après-midi, mon sort était mille fois pire. Sa femme me rendait fou. Elle était dans ma tête, dans mon ventre à chaque instant. Je suis resté planté au milieu du verger dans un brouillard rose et blanc, et soudain je savais ce que je devais faire. Je me suis précipité dans mon bureau et me suis emparé de mon arme, un exemplaire neuf de Madame Bovary en anglais. J'ai posté une lettre à Gemma. À peine avait-elle disparu dans la boîte que j'ai ressenti une bouffée de dégoût envers moi-même. Une lettre anonyme, étais-je tombé si bas ? Aujourd'hui, en lisant le récit que Gemma en donne, je me sens encore plus mal. Ce n'était pas seulement vil, c'était cruel. Quand le courrier est arrivé, Gemma était à l'étage et se préparait pour son week-end adultère, coupant les étiquettes de sa lingerie neuve.
Justin m'a monté une lettre. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai eu un mauvais pressentiment. L'adresse était tapée en majuscules. À Madame Bovary, cachet local, posté hier. Je n'avais pas envie de l'ouvrir. 3 jours ensemble, c'était peut-être une erreur. Je voudrais que ce soit un truc d'amour, mais c'est peut-être juste une affaire de lit. Oh, je suis stupide, c'était parfait. J'ai peur d'avoir tout foutu en l'air.
Dans le courrier, elle a trouvé 2 pages photocopiées de Madame Bovary avec plusieurs phrases surlignées en jaune, toutes tirées de la lettre que l'amant d'Emma Bovary lui envoie le jour de leur fugue supposée, mettant fin à leur histoire.
Du courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur se fût diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Emma, oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue? Pourquoi étiez-vous si belle? Adieu. Adieu.
C'est une blague. J'y crois pas, Hervé. Mais pas comme ça, pas lui. Comment ose-t-il me le dire comme ça, me larguer comme ça? Oh mon Dieu. Ah, c'est comme ça qu'ils font en France. Ils sont tellement cultivés qu'ils se servent de la littérature. Merci.
Merde. Comment j'ai pu me foutre dans une situation pareille?
Bon, Arnaud, tu peux pas continuer, il faut arrêter ça.
Je peux pas, Arnaud, je peux pas.
Appelle-la, annule. Fais-le avant qu'il soit trop tard. Pense à Delphine,
vas-y, fais-le.
J'étais en train de penser que tout était peut-être OK. Hervé n'aurait pas pu envoyer ce truc anonyme adressé à Madame Bovary. Hervé ne connaît que mon nom de jeune fille. Je me sentais un peu soulagée quand j'ai entendu le ding signalant l'arrivée d'un mail.
Gemma, je suis désolée, je ne peux pas aller à Londres avec toi. Je dois rester à Paris. Je t'écrirai. Hervé.
2e coup de poing à l'estomac. Pire. Comme ça, c'est clair. C'est fini. Il m'a plaqué. Salaud. Envie de mourir. L'idée de devoir continuer la mascarade et d'aller à Londres est un cauchemar total. S'il n'y avait pas ma réunion de lundi, je resterais à la maison. Quoique, je ne pourrais pas affronter Charlie. Je les entends dans le jardin, lui et Judy, ils se disputent comme d'habitude. Elle va en Bretagne et elle est passée prendre les gamins.
Judy, j'espère que tu n'es pour rien dans cette histoire. Dis-moi que tu n'as pas donné mon nom aux impôts.
Charlie, tu me fatigues la tête, je ne comprends rien ce que tu me dis.
J'ai eu un redressement fiscal, est-ce que tu comprends ça?
Et alors?
Ok, et comment tu l'expliques? Pourquoi ils m'ont choisi moi pour faire un contrôle?
Je ne sais pas, ton dossier était sur le dessus de la pile. De toute façon, si tu as triché, c'est ton problème. Je ne t'ai pas dénoncé, Charlie. Tu me prends pour une idiote? Tes emmerdements financiers sont aussi les miens.
J'ai dit que j'étais d'accord pour remettre les compteurs à zéro, mais j'ai fait une fausse déclaration. Ça peut aller chercher jusqu'à 5 ans de prison. Pour m'en sortir, je dois régler les impôts, plus les intérêts, plus les pénalités. Il y en a pour 28 000 livres.
Bon Dieu ! 28 000 livres ! Tu les as ? Qu'est-ce qu'on va faire ?
Ils ont toujours l'air de se détester. Et autrefois, je pensais que c'était vrai, mais... En fait, les engueulades sont une sorte de jeu, de rituel. Judy provoque Charlie. Il ne crie jamais avec moi, ne m'affronte jamais comme ça du regard. C'est à peine s'il réagit à ma présence ces temps-ci. Judy est importante pour lui, là où je ne le suis pas. Ils ont une vraie relation, ce que je n'ai plus avec personne. À les regarder, je me sens encore plus mal. J'ai envie de foutre le camp d'ici et de ne jamais revenir.
Gemma, qu'est-ce que tu fais? Tu dois y aller, tu vas rater le ferry.
Je sais que Gemma est allée à Londres. J'ai entendu son van passer devant la maison. J'ai vu Carrington courir dans l'allée, s'arrêter au croisement et regarder d'un air mélancolique sa maîtresse s'éloigner. Ah, si la petite chienne pouvait parler, j'avais tant de questions. Gemma avait-elle reçu ma lettre? Avait-elle cru qu'elle venait de son amant? Mes pages avaient-elles fait naître le soupçon dans son esprit, le doute, la panique? Allait-elle donner lieu à une scène entre Gemma et son amant, détruire leur liaison? Ou aurait-elle l'effet inverse, les rapprochant encore plus? Gemma est restée absente 5 jours. Le 6e, elle faisait la queue dans ma boutique. Mon cœur a manqué un battement. Incapable de la regarder dans les yeux, j'ai tourné le dos, tremblé, laissé tomber des pièces. C'est Martine qui l'a servie. Ce que j'ai vu me disait que sa liaison était finie. Le visage triste, le regard sans vie, la nouvelle coiffure, les femmes trahies se coupent toujours les cheveux. S'il me fallait une autre preuve, l'absence prolongée de la voiture d'Hervé sous les tilleuls de la Boissière me la fournissait. Et quand Gemma allait se promener, elle passait devant le château la tête basse. Je me rappelle avoir éprouvé un moment de triomphe. Admirable que 2 pages de Madame Bovary aient mis fin à l'histoire d'amour de Mrs. Bovary. Cela n'a pas duré. J'étais épouvanté de l'étrange influence que je semblais exercer sur la vie de Gemma. À peine avais-je invoqué l'histoire d'Emma Bovary que la trajectoire de Gemma s'était ajustée sur la sienne. Très amusant au début, mais inquiétant quand on considérait la fin du livre. Comme chacun sait, Madame Bovary est une tragédie. Il n'y est pas simplement question d'amour, mais aussi de dette, de scandale, d'arsenic, de la mort atroce de l'héroïne. On aurait pu me croire fou de redouter que la tragédie s'abatte sur Gemma. J'ai pris 2 décisions. Cesser de penser au roman de Flaubert et mettre un terme à ma ridicule obsession de Gemma. J'ai résolu de me tenir à distance. Quand je la verrai, je penserai à quelque chose de pur et de paisible. À ma patte reposant pour la 2e fois. Aux longs pins étendus sur leur couche de linge fariné, exhalant une petite odeur acide et entêtante de fermentation.
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique de Lili Stein.
8e épisode avec
Élodie Hubert,
Gemma Bovary,
Vincent Schmitt,
Raymond Joubert,
Laurent Lederer,
Charlie Bovary,
Léonie Pinjot,
Martine Joubert,
Lorenzo Lefebvre,
Hervé de Bressigny,
Anne Canovas,
Florence de Bressigny,
Antonin Chalon,
Arnaud,
Manika Auxir,
Delphine,
et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Bruitage, Sophie Bissens.
Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre-Henri, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande.
Traduction, Lili Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël.
À demain.